après le temps de louange qu'on a eu ensemble ce matin, je sentais que la seule chose que je pouvais peut-être dire, c'est Jésus. Jésus mort, Jésus ressuscité, Jésus qui règne, et Jésus qui est au ciel. Et en fait, quand on parle de Jésus, on parle de l'accomplissement, n'est-ce pas, d'un message qui a été donné pendant des siècles avant que Jésus arrive. Ce matin, vous savez, Michael a suggéré que pendant l'été, on étudie les genres littéraires. Il vous a présenté les épîtres, la poésie, les narratifs, on a vu Actes aussi. Et ce matin, je devais vous parler des prophéties. Des prophéties. Quand je vous dis le mot prophétie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quand on parle de prophétie, c'est quoi la première chose qui vous vient à l'esprit? Les choses qui ont été dites avant que ça arrive, les choses à venir. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça vous dit le mot prophétie? Quoi? Parler de la part de Dieu. Envoyé de Dieu. J'aime parler de la part de Dieu. Il y a la notion d'avenir. Il y a des choses qui ont été dites autrefois. Vous savez, quand on parle de prophétie, souvent, on l'associe au terme prédire. Surtout dans notre langage contemporain autour de nous aujourd'hui. Il y a comme un aspect sensationnel. Connaître quelque chose qui va se passer plus tard, dont personne ne connaît, n'est-ce pas? Et si je vous nomme le prophète Nostradamus, qui ne le connaît pas? En fait, apparemment, son nom, c'est Michel de Notre-Dame. Et il l'a latinisé pour se faire appeler Nostradamus quand il a sorti son almanach en 1550. Et depuis lors, il a sorti plusieurs livres de prophéties. Tout le monde connaît Nostradamus, les almanachs de Nostradamus, les prophéties de Nostradamus. Apparemment qu'il aurait écrit au-dessus de 6000 prophéties sur des grands événements mondiaux. Les gens s'y réfèrent encore. Même plus, ça a comme genre déclenché une effervescence pour certains autres d'essayer de prédire eux aussi. On se souvient en 2012, il y en a qui ont prédit la fin du monde. Vous vous souvenez de cela au mois de juin, je pense, le 30 juin 2012, et ensuite le 21 décembre 2012. Une dernière date sur Internet qu'on pourrait trouver sur la fin du monde, et ça ne s'est pas produit évidemment, parce qu'on est tous encore ici, c'est le 23 août 2013. Est-ce qu'il y en a qui en ont entendu parler? Et si vous allez sur Internet, si vous écoutez une nouvelle, à un moment donné, oups, ça vient. Il y a la fin du monde qui est prédit pendant un instant. Ouais, probablement une autre galaxie qu'on ne connaît pas. Là. Mais tout cela pour dire que souvent le mot prophétie est associé à une notion de prédire l'avenir. J'aimerais un petit peu que ce matin ensemble, qu'aujourd'hui, on regarde au mot prophétie, comme notre frère Claude l'a mentionné, un message de la part de Dieu. Mais juste avant, même dans la chrétienté, vous savez, quand on parle de prophétie, c'est comme si on essaie de découvrir un mystère que pas beaucoup de savants chrétiens sont capables de découvrir. Il y en a qui essaient même d'interpréter les événements contemporains, et ça a existé en 1600, en 1700, en 1800. Ça a même existé dans la Deuxième Grande Guerre mondiale, quand Hitler était en puissance. Il y en a qui ont utilisé les grands événements mondiaux pour essayer d'interpréter des prophéties qu'on retrouve dans les Écritures. D'autres ont utilisé des techniques peut-être un petit peu plus savantes. Vous avez peut-être déjà entendu parler du chiffrement dans la parole de Dieu. Il y en a qui ont essayé de donner un chiffre, etc., un autre sens aux lettres qu'on retrouve, à l'alphabet qu'on retrouve, pour comme essayer de trouver un message secret, un mystère. Il y en a d'autres qui ont utilisé l'allégorie. Ils ont pris une prophétie, puis ils ont donné tout un sens, ils ont monté tout un message avec une prophétie ou un rêve qu'on retrouve dans les Écritures. Qu'est-ce qu'une prophétie au sens biblique du terme? Et là, je vais essayer de m'habituer avec ça ici. J'aimerais qu'on garde à l'esprit, vous allez voir à cet acte-là se reproduire à quelques reprises pendant le temps ensemble ce matin. J'aimerais qu'on garde à l'esprit quatre choses concernant les prophéties dans la parole de Dieu. Et surtout avec ce qu'on va regarder ensemble, le livre d'Ésaïe. Et ce matin, je ne veux pas qu'on lise les 66 chapitres, puis qu'on essaye d'étudier chacune des prophéties. Je ne veux pas rentrer non plus dans les zones grises des prophéties qu'on retrouve dans Ésaïe. Je veux qu'on on regarde le big picture, la vision d'ensemble, le message dans son ensemble. Qu'est-ce qu'une prophétie au sens biblique du terme? Ce n'est pas une prédiction aventureuse du futur. Ce n'est pas de deviner un message secret caché dans un récit. C'est Dieu qui parle. C'est notre Dieu qui parle. Et j'aimerais même dire, c'est notre Dieu sauveur, c'est notre Dieu rédempteur qui parle. On retrouve souvent dans les prophéties, voici le message que Dieu a révélé. Voici le message que Dieu a révélé. Dans d'autres traductions, oracle de l'Éternel, parole de Dieu. Les prophéties révèlent la majesté, la gloire, la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas un message secret que quelqu'un essaie de décoder et qui nous explique. C'est Dieu qui nous dit ce qu'il a préparé. C'est Dieu qui nous dit ce qu'il a préparé pour nous. S'il l'a préparé, ce n'est pas une prédiction qu'il fait, c'est une annonce. Il proclame ce qui va arriver parce que lui-même l'a déterminé. Et dans les prophéties, Dieu nous révèle sa gloire, sa souveraineté. Un deuxième point dans les prophéties, Dieu nous rappelle son alliance. Et quand on parle du mot alliance, on parle du désir de Dieu d'habiter avec nous, de l'engagement que Dieu veut prendre avec nous, et de l'engagement qu'il demande à ses créatures de prendre avec lui. C'est ça une alliance. Mais l'alliance parle avant tout du désir de Dieu d'habiter parmi nous, d'être présent dans notre vie. Dans les prophéties, Dieu nous révèle, nous rappelle son alliance. Une troisième chose, dans les prophéties, Dieu confronte la faillite humaine, le désastre, le désordre, le gâchis, la rébellion, le péché. On va le voir avec Ésaïe. Et les prophètes, quand ils parlaient de la part de Dieu, souvent on peut dire, hey, un vieux chiffon qui fait juste nous rappeler des choses mauvaises qu'on avait commises, c'est ça un prophète. Puis les rois se sentaient comme ça, hein, ils voulaient le crucifier, ils voulaient le détruire, ils voulaient le tuer. Mais en fait, oui, il y a dans les prophéties un aspect où Dieu confronte le mal en nous. Parce que c'est quelque chose qui l'empêche d'habiter avec nous. Et la quatrième chose, c'est là qu'il ne faut pas rester au troisième point, la quatrième chose, Dieu nous annonce son plan rédempteur, la bonne nouvelle. Dieu nous annonce la rédemption, ce qu'il a prévu pour nous. Et j'aimerais qu'on regarde brièvement à quelques aspects du livre d'Ésaïe. On va faire ça rapidement parce que probablement que des fois dans vos dévotions, dans votre culte personnel, vous lisez le Pentagenèse, Genèse, c'est le fun, on voit des histoires, Exode, alors qu'il y a le peuple qui s'enfuit, Lévitique, la loi. Deutéronome, qui même nombre, la loi. Deutéronome, on répète encore toute l'année. Après ça, on arrive dans des livres où on a des narratifs, comme Josué, Juge. Qu'est-ce qui s'est passé après que Moïse a quitté, après que Josué a quitté? Après ça, on a des livres poétiques où les gens chantent la majesté de Dieu, la gloire de Dieu, où les gens chantent des complaintes, n'est-ce pas? Après ça, on a les prophéties. Quand on arrive, des fois dans les psaumes, on s'identifie en disant, c'est pas moi, je suis en blessure, j'ai une situation difficile dans ma vie, cette psaume-là me réconforte. Là, les psaumes, on aime ça. Là, on arrive aux prophéties, mystérieux, c'est compliqué à comprendre, n'est-ce pas? Mais là, des fois, dans Ésaïe, on parle d'un roi Ézéchias, en disant, hey, je me souviens d'avoir lu en deux chroniques, ou en deux rois. Puis là, on dit, ah, c'est le fun d'aller. Là, on arrive dans les prophéties, puis des rêves, puis ici, puis des ça. Ah, il y a une petite parole qui nous encourage. Mais si vous êtes comme moi, on dirait que quand on lit Ésaïe, à un moment donné, on lit des versets séparément. Là, il y a des versets qu'on ne comprend pas, on continue. Puis on lit un verset qui nous encourage. Après ça, on continue, on lit des mots. Mais Dieu a un message. Ésaïe a agi comme prophète pendant au-dessus de 50 ans. Il a couvert la vie ou l'existence d'au moins 4 rois en Israël. Il y a des événements qui se passaient en Israël. Et il y a un fil conducteur dans le livre d'Ésaïe qui est merveilleux. Et c'est le feeling que j'aimerais vous donner un matin du livre d'Ésaïe pour que la prochaine fois que vous allez lire Ésaïe 1, 2, 3, 6, Ésaïe qui voit la gloire de Dieu. Après ça, les jugements contre Babylone, à la Syrie, contre ci, contre ça, contre ça. Ésaïe 39, la déportation à Babylone. Ésaïe 40, oups, il y a un changement de ton. Que vous puissiez comprendre le fil conducteur d'Ésaïe. Parce que Dieu révèle quelque chose de merveilleux en Ésaïe. Et aujourd'hui, on peut même regarder en arrière à Jésus et dire, je comprends une partie du livre d'Ésaïe. On peut se mettre dans les souliers des apôtres et comprendre une partie du livre d'Ésaïe. Mais la totalité des prophéties qu'on retrouve dans Ésaïe ne sont pas encore toutes accomplies. Parce que l'accomplissement des prophéties, j'aimerais ça vous donner un exemple. Aujourd'hui, on prend des photos, puis on a un JPEG, hein, on a un fichier, puis on met ça sur l'ordinateur, puis on voit la photo tout de suite, on la regarde même sur l'écran en arrière de notre caméra, n'est-ce pas? Et les photos, c'est comme ça, ça marche. Dans le temps, ben, pas dans le temps si loin que ça, mais dans le temps, peut-être 20 ans, il y a 20 ans, 30 ans, il y avait des chambres noires. Mon grand-père avait ça dans son sol. Puis il y a des gens qui, c'était leur hobby, hein, ils développaient la photo. Puis là, ils la gardaient dans le noir, dans une sorte d'acier, toutes sortes d'affaires. Hein, puis, à un moment donné, il y avait une photo qui paraissait, l'image paraissait. C'est assez spécial qu'à partir d'un négatif, avec tout un petit procédé, l'image paraisse. Mais c'est juste une image. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent des Polaroids, où le procédé est un petit peu plus rapide? Qui se souvient de ça? On prenait une photo, puis là, oups, il y avait un petit papier qui sortait, il était tout blanc au début ou tout noir, là, je me souviens pas. Qui se souvient comment ça marche? Ouais, tout blanc, hein, il me semble qu'il était tout blanc. Puis c'était une photo carrée, hein, était... Ouais, puis là, tranquillement, oups. Il y avait, on se rappelait de la photo. C'était bien différent d'aujourd'hui. Hein? Puis hier soir, j'ai essayé de penser à l'introduction. On se met dans les souliers de qu'est-ce que ça veut dire les prophéties qui s'accomplissent. Parce que quand les... Juste garder à l'esprit quelque chose. Quand Ésaïe proclamait un message de la part de l'Éternel au peuple autour de lui, souvent c'était associé à un événement bien présent. Et la prophétie commençait à s'accomplir pas très loin après. Des fois, quelques années après, quelquefois quelques jours après. Mais on parle d'accomplissement des prophéties. Parce que l'accomplissement des prophéties, c'est un déroulement. Puis le déroulement se fait sur plusieurs années, jusqu'à Jésus. Et même quand Jésus est venu dans sa gloire, vous savez que la gloire de Dieu a été manifestée pas juste à la transfiguration, quand les disciples ont vu Jésus avec Moïse, Élie. Qui était l'autre? J'ai de la mémoire. Mais quand Jésus, Moïse et Élie. Merci Claude, j'étais correct. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée pas uniquement à la transfiguration. Mais la gloire de Dieu, c'est une ironie, on le voit en Jean 18, la gloire de Dieu s'est manifestée à la croix, quand Jésus est mort. Quand Jésus a donné sa vie et qu'il s'est écrié, tout est accompli. Mais même à ce moment-là, Jésus a vaincu la mort, le péché, la puissance, il est ressuscité. 3 jours après, il est apparu à ses disciples pendant 40 jours, il y a eu la Pentecôte 50 jours après. Le royaume de Dieu est sur terre maintenant. Et le royaume de Dieu est une promesse qu'on retrouve dans Ésaïe, mais qui est encore en accomplissement. Parce que c'est quand Jésus va revenir nous prendre avec lui, lorsque Jésus va mettre une restauration complète à tout ce que le péché a détruit, c'est là que le royaume de Dieu va prendre finalité, qui va s'instaurer d'une façon complète. Dans les prophéties, il y a un mot qui est important à mettre, c'est l'accomplissement des prophéties. Et c'est un peu comme une photo Polaroid. Comme si ça s'échelonnait sur plusieurs jours. On voit une première chose, une deuxième chose, une troisième chose. Puis à un moment donné, la photo est complète. La photo va être complète quand on va se retrouver avec Dieu dans les cieux. Quand Dieu va restaurer tout, quand Dieu va rétablir toutes choses comme il l'avait prévu au commencement. C'est ça les prophéties. Maintenant, Ésaïe. Et j'aimerais vous donner juste un exemple avec ça. Qui se souvient, on cite ce verset souvent à Noël, où la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. J'aimerais que vous mettiez dans les pieds de ceux qui ont reçu ce message-là de la part d'Ésaïe. Il y avait probablement, à ce moment-là, une jeune fille, vierge peut-être, ou juste jeune fille. Et Ésaïe a dit, avant que cette jeune fille-là ait son bébé, il va se passer quelque chose, on va le regarder ensemble. Mais on peut voir en même temps comment, rendu dans le Nouveau Testament, quand Jésus est né, Matthieu, les évangiles, nous disent, voici comment s'est accomplie cette prophétie-là, parce que la Vierge est devenue enceinte, et elle a enfanté un fils qui est Jésus, notre Sauveur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Quand les gens ont reçu la proclamation de Dieu, prononcée par Ésaïe, de la part de Dieu, ils ont compris quelque chose, et ça voulait dire quelque chose, et Dieu voulait leur dire quelque chose. Et on va essayer de comprendre ensemble ce matin l'intention de Dieu envers ces personnes-là. On va regarder le contexte. Ésaïe, qu'est-ce que veut dire le mot Ésaïe, le nom Ésaïe? Est-ce qu'il y en a qui le savent? L'Éternel est le salut. C'est un peu une même racine ou une racine similaire au mot Josué, mais qui est complètement différent. Pas complètement différent, mais qui est distinct, c'est ce que je devrais dire. Mais qui signifie l'Éternel est le salut. l'Éternel sauve, le salut vient de Dieu. Ésaïe sera un dignitaire. Ésaïe sera un dignitaire souvent présent dans la cour du roi. Qu'est-ce que Ésaïe a vécu? Quand vous avez lu probablement avec tout comme moi plusieurs fois le livre d'Ésaïe, c'est quand Ésaïe a vécu? Ésaïe a eu un ministère pendant presque 60 ans, au-dessus d'une cinquantaine d'années. Il a prophétisé pendant la vie de roi. Là, je vais les nommer, puis il y en a peut-être qui vont dire, ça me dit quelque chose, mais je ne me souviens plus trop quand ils ont vécu. Je vais essayer de vous l'expliquer. Ozias, il est mort. Ésaïe a commencé son ministère. On le voit selon Ésaïe 6.1. Je vais vous donner des versets en correspondance avec ça. 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26 à 2 Chroniques 33. Quand vous allez lire Chronique la prochaine fois, 2 Chroniques 26 à 2 Chroniques 33, c'est le time frame où Ésaïe a agi comme prophète. Et si vous voulez savoir c'est quoi qui s'est passé pendant la vie d'Ésaïe, après-midi, demain, cette semaine, lisez 2 Chroniques 26 à 2 Chroniques 33. Mais je vais vous en donner un petit bride quand même. Ozias est mort. Ésaïe commence. Jotham, ou dans la Bible sommaire, Jotham, de 750 à 732. Achaz, j'ai grandi avec le nom Achaz, dans la Bible sommaire, Ahaz, 732 à 715, n'oubliez pas, on soustrait les années. 750 à 732, 732 à 715. Ézéchias, qui se souviennent d'Ézéchias? Un roi qui avait un bon cœur, enfin. Parce que quand on lit les autres avant, c'était comme déprimant, c'est décourageant de voir comment tout est un désastre. On arrive à Ézéchias, 2 Chroniques 29 à 32. Retenez une chose, quand vous lisez des narratifs, je pense que Michael en a parlé, quand un auteur s'échelonne pour écrire plus sur un sujet, il y a un point qu'il veut marquer. Il met une emphase. Quand il y a quelque chose qui est répété plusieurs fois, l'auteur met une emphase. Aujourd'hui, quand on écrit une lettre et qu'on veut mettre une emphase, on met ça en gros. On met ça en souligné. On highlight en jaune. On met ça en rouge. On grossit le caractère, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on écrit. Dans ce temps-là, vous savez ce qu'il faisait? Il n'y avait pas des dactylos peut-être comme nous, des traitements de texte comme Word. Bill Gates n'avait pas encore produit son invention du siècle avec Word et la suite Office. Mais vous savez ce que l'auteur faisait pour mettre une emphase? Je viens de dire. Il répétait. Il y a une phrase qui revient. On voit ça même dans Actes. Ézéchias, l'auteur, en parle un petit peu plus. On voit la Pâque. Hein, il a fait une des plus grandes Pâques depuis David. Ézéchias a fait une grande cérémonie. Maintenant, ça c'est le troisième, Manassé. Tout vire au drame encore. De 697 à 642. Ils ont cru qu'Ésaïe serait mort en fuyant Manassé ou ses bourreaux, en se cachant dans un tronc d'arbre. Et sous l'ordre du roi, les bourreaux auraient reçu l'ordre de scier l'arbre en sciant en même temps Ésaïe. Et c'est de cette façon-là, la tradition nous dit qu'Ésaïe serait mort. Mort martyr sous le règne de Manassé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la vie d'Ésaïe? Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire son livre? Et là, je vais essayer de vous mettre rapidement dans le feeling du livre d'Ésaïe. 2 Chroniques 27, versets 1 et 2. Jotham avait 25 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yerusha, fille de Tsadok. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit en tout l'exemple de son père Ozias. Alors ça, c'est encourageant, n'est-ce pas? Toutefois, il n'entra pas dans le temple de l'Éternel, mais le peuple continuait à se corrompre. On voit le peuple qui se corrompt, qui probablement qui suivent l'exemple des nations autour d'eux. 2 Chroniques 28, versets 1 à 4, un autre roi. Il était âgé de 20 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce que l'Éternel considère comme juste, contrairement à son ancêtre David. Mais il suivit l'exemple des rois d'Israël et ordonna même de fondre des statues en l'honneur des Baals. Donc, il corrompt le peuple, il amène le peuple dans l'idolâtrie. Et il offrait des sacrifices, il brûlait des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous chaque arbre verdoyant. Un autre roi, Ézéchias, en 2 Chroniques 29 cette fois-ci, comme je l'ai dit tantôt, là, on lit Ézéchias, puis enfin, c'est comme rafraîchissant, on voit Ézéchias, qui n'est pas un homme parfait. Il y a des choses qu'il fait qui déplaisent à Dieu. On va le voir en Ésaïe 39 bientôt. Mais au moins, il a à cœur de suivre Dieu. Maintenant, plus loin, en 2 Chroniques 33, Manassé est âgé de 12 ans à son avènement. Il régna 50 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Et là encore, bon. Il s'adonnait aux mêmes pratiques abominables que les nations que l'Éternel avait dépossédées en faveur d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux, il offrit même ses fils par le feu, en sacrifice. Donc là maintenant, c'est comme un désastre, un désastre, un désastre. Les prophéties proclament la souveraineté de Dieu, la majesté, la gloire de Dieu. Les prophéties rappellent l'alliance de Dieu. Les prophéties confrontent la rébellion humaine. Les prophéties annoncent la délivrance, la rédemption, le plan de Dieu de racheter, de restaurer. Il révèle sa promesse et son intention d'établir un royaume, de racheter, de sauver l'humanité. Et on le voit même dans Ésaïe. On pourrait parler d'Ésaïe comme étant le prophète évangélique. Parce que le mot évangile signifie bonne nouvelle, hein? Puis Ésaïe annonce une bonne nouvelle. À qui annonce une bonne nouvelle? Au peuple d'Israël. Qu'est-ce qui se passait dans ces années-là? On a vu les quatre rois. On a vu que des fois ça va bien, des fois ça va mal, mais plus souvent qu'autrement ça va mal. Le peuple s'égare. Le peuple ne suit pas les ordonnances de Dieu. Le peuple ne respecte pas l'alliance de Dieu. Et Dieu regarde à son peuple qu'il a choisi, et c'est un gâchis. C'est un gâchis. Mais mettons-nous un petit peu dans l'intention de Dieu. Dieu, au commencement, a tout créé parfait. Il a créé l'homme dans une relation parfaite avec lui, la femme dans une relation parfaite avec lui. Le péché est entré dans le monde, tout a été détruit. Et à partir de ce moment-là, c'est de la corruption. La corruption, un gâchis constamment. Pas longtemps après, Adam et Ève ont un fils, Caïn, qui tue son père. Et plus loin, quelqu'un d'autre venge Caïn. Abel, plutôt, en tuant Caïn. Et à partir de ce moment-là, c'est des guerres, c'est du sang, c'est sanguinaire, c'est des querelles. Mais là, Dieu décide de se révéler. Et Dieu se révèle par Abraham. Dieu se révèle par Abraham, Isaac, Jacob. Et Dieu leur fait des promesses. Leur fait des promesses merveilleuses. Je t'ai choisi, je vais te donner une nation. Je vais faire de toi une nation. Et là, on voit Israël qui arrive, qui est en fait les descendants d'Abraham. Le clan d'Abraham devient une nation. Mais on voit même que qu'est-ce qui se passe quelque temps après, ils se retrouvent en Égypte. Et on voit avant de voir l'Exode, on voit les troubles que les Israélites vivent, les difficultés qu'ils vivent, l'oppression. Et là, Dieu dit, je vais vous sauver. Dieu dit, je vais vous sauver, je vais vous racheter, je vais vous délivrer de Pharaon puis de l'Égypte. Dieu les prend puis les sort à bras ouverts de l'Égypte, les fait traverser la mer Rouge, les délivre complètement. Et là, qu'est-ce qu'on voit encore? La corruption dans le cœur des Israélites, les murmures, les révoltes, le veau d'or, tout de suite en commençant. N'est-ce pas quand Dieu essayait d'établir son alliance? Et là, tout ce qu'on voit, c'est Dieu qui a l'intention d'habiter avec, dans l'humanité, sur terre, avec, par le biais du peuple d'Israël. Sa gloire était dans le tabernacle, mais ce qu'on voit constamment, c'est même le peuple que Dieu a choisi est constamment en opposition avec son Créateur, constamment. On voit le désordre, on voit le désastre, on voit les déceptions, on voit tout va mal. J'aimerais faire juste une petite application. Dieu, c'est la même chose pour nous dans notre vie. Dieu veut habiter avec nous. Et c'est l'intention ouverte, c'est l'intention forte de Dieu d'habiter avec nous, de marcher avec nous, de nous tenir la main. Des fois, on n'en prend pas garde. Tout ce qu'on voit, c'est les difficultés qu'on vit, c'est le désordre dans notre vie, c'est le gâchis, c'est les épreuves, c'est le péché, c'est les luttes. Cette semaine encore, je luttais avec le péché. Et j'espère, aujourd'hui, à chaque jour, on lutte contre le péché. Mais cette semaine, à un moment donné, j'ai lutté avec le péché. Et le péché est présent dans ma vie, le péché est présent dans nos vies. Ça n'enlève pas le désir de Dieu d'habiter avec nous, mais qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'être sauvé, d'être délivré. Pas juste de l'enfer, de notre condamnation future, mais surtout de ce qui nous amène. Et ce qui nous amène, là, c'est le péché dans notre vie, c'est le péché dans notre cœur, c'est le péché dans notre sang, c'est le péché dans nos pensées, c'est le péché partout. Et même si je vous dis, luttez contre le péché, la Bible nous dit de lutter, la Bible nous dit de se repentir. Qu'est-ce qu'on réalise la première seconde qu'on essaie de le faire? Que c'est plus gros que nous autres, c'est plus fort que nous. C'est comme ça que les Israélites vivaient leur vie. Exactement comme ça, comme nous on l'a vu aujourd'hui. À chaque jour, ils voyaient les peuples autour d'eux qui adoraient d'autres dieux, avec probablement l'intention d'obtenir la pluie parce qu'il y avait une sécheresse. Qu'est-ce que les autres faisaient? Ils vivaient avec l'influence comme nous, on vit aujourd'hui. Ils vivaient avec l'influence tranquillement de se laisser aller vers là, puis à un moment donné, se détourner de Dieu, puis c'est probablement là qu'elle se trouve la solution, puis peut-être vaut mieux l'essayer. Et le peuple se détournait de l'Éternel. Et ils avaient besoin d'un sauveur. Ils avaient besoin d'un rédempteur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans Ésaïe? Ésaïe 1 à 39, Ésaïe est dans un contexte où on a vu les rois. Ils abandonnent l'Éternel, le peuple se corrompt. Oh, il y en a un qui est bon, mais le peuple continue de se corrompre. Maintenant, dans les 39 premiers chapitres d'Ésaïe, ce que Ésaïe fait, c'est qu'il confronte le péché. Confronte le péché. Il dit, hey, Dieu a fait une alliance avec vous. Il s'est engagé avec vous. Il vous a demandé de s'engager avec lui. Vous la brisez. Vous la brisez. Maintenant, regardez ce qui va arriver. Et là, il annonce des malheurs. Et c'est pour cela que souvent, les rois, dans ce temps-là, voulaient mettre à mort le prophète. Parce qu'il ne nous annonce rien de bon, c'est rien des malheurs. Pour tourner à l'Éternel, ou bien on va mourir, il va revisser. Et dans le temps d'Ésaïe, ce qui se passait pendant la vie d'Ésaïe, c'était qu'il y avait un peuple puissant autour qui était les Assyriens. C'était ce qui était présent dans ces années-là, 700 quelques, jusqu'au début des, ou tard dans les années 600, parce qu'on recule, n'oubliez pas, dans le temps. Et là, du chapitre 1 à 39, Ésaïe proclame des condamnations, proclame des jugements, jusqu'au chapitre 39. Et si vous lisez le chapitre 39, vous allez découvrir que Ésaïe cite Ézéchias avec sa maladie, comme ça s'est passé en 2 Chroniques 29, 30, 31, 32, si vous le lisez. Ésaïe décrit ce qui s'est passé dans le temps du règne Ézéchias. Ézéchias a une maladie, demande grâce à Dieu, Dieu le guérit. Et là, il y a quelqu'un d'un pays très éloigné qui vient visiter Ézéchias. De la Babylone. Dans ce temps-là, la Babylone était un pouvoir, mais ce n'était pas le pouvoir principal. On se retrouve au-dessus de 100 ans avant la déportation à Babylone. Vous connaissez tous la déportation à Babylone que les Juifs ont vécu pendant 70 ans. On est au-dessus d'un siècle avant que ça arrive, à Ésaïe 39. Et Ésaïe dit à Ézéchias, parce qu'il était dans le parvis, il était autour du roi, il dit, ces gens-là qui sont venus, un jour vont revenir, ils vont tout détruire, ils vont prendre tes fils, ils vont faire des esclaves, puis ils vont les amener là-bas. Puis Israël ne sera plus dans son pays. Ça va être la fin. Pas une fin finale, mais ça va être une certaine fin pendant 70 ans. Ézéchias accepte cela, mais probablement pas avec une pleine compréhension. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit, hey, Israël, j'ai fait une alliance avec vous. Je vous ai demandé de me suivre, mais vous êtes pris avec le péché, puis vous n'êtes pas capable de vous détourner de votre péché, des tentations des nations autour de vous, pour respecter mon alliance. Parce que je vous aime, parce que vous êtes mon peuple, je vais devoir vous châtier. Et oui, on retrouve cette notion de Dieu dans son alliance qui châtie. On la retrouve même dans le Nouveau Testament. Dieu veut épurer, Dieu veut purifier. Et là, Dieu châtie et Dieu prophétise et proclame la déportation d'Israël. Et quand on arrive là, en Ésaïe 39, là, c'est comme, OK, là, c'est vraiment triste. Vraiment triste. Vraiment, vraiment, vraiment un désastre. Mais là, Ésaïe 40, il y a comme un autre changement. Il y en a qui ont, il y en a, vous allez peut-être, si vous lisez, s'il y en a qui sont curieux puis qui lisent un peu des commentaires sur Ésaïe, vous allez voir que dans l'histoire, très récemment plutôt, il y en a qui divisent Ésaïe en trois. Mais je n'en sais pas d'entrer beaucoup de détails par rapport à ça. Mais surtout ceux qui vont dire que c'est impossible qu'un homme sache dans autant de détails ce que Ésaïe nous révèle au-dessus de 100 ans avant que ça se réalise. Parce qu'est-ce qu'on voit dans Ésaïe 39? 100 ans avant que ça se réalise, Ésaïe est en train de dire à Ézéchias, vous allez partir en déportation à Babylone. Babylone n'est même pas une puissance à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on voit même plus loin, Ésaïe 44, verset 18? Rendu à Babylone, il y a mon loin, celui que j'ai choisi, un roi qui s'appelle Cyrus, qui va vous permettre de revenir en Israël. Hey, on se retrouve 70 ans plus au-dessus d'un siècle, on est presque 200 ans avant que ça se réalise. Ésaïe le prédit. Ésaïe prédit la rédemption d'Israël, la restauration d'Israël. Et ce n'est pas une prédiction. J'ai utilisé le mot prédit, c'est une annonce, parce que les prophéties proclament la gloire, la souveraineté de Dieu. Et Dieu annonce son plan. Maintenant, dans Ésaïe 39, c'est un désastre. Il y en a qui vont dire, oh, en Ésaïe 40, on voit un changement de ton. Jusqu'au chapitre 55, il y en a qui vont dire, c'est toute une dernière section. Mais là, ils vont dire, c'est certainement pas Ésaïe qui a écrit tout le livre. Ça a dû s'écrire après. J'aimerais vous donner deux évidences majeures qui nous permettent de dire que Ésaïe est l'auteur de Ésaïe 1 à Ésaïe 66. Même trois. Mais la troisième, je vais vous en donner trois. La première, vous vous souvenez des rouleaux du Qumran? Une découverte récente décrit des plus anciens, qui nous donne des écrits les plus anciens qu'on peut retrouver de certains livres de l'Ancien Testament, dont Ésaïe. Vous savez que dans le Qumran, on retrouve Ésaïe 1 à 66 comme un tout sous le nom d'Ésaïe. Une autre évidence, dans le Nouveau Testament, on retrouve plusieurs prophéties du livre d'Ésaïe. Dans le Nouveau Testament, tous les auteurs qui citent Ésaïe 1 jusqu'à 66 parlent d'un seul auteur, Ésaïe. Deuxième évidence. Et jusqu'au 19e siècle, tout le monde s'accordait pour dire qu'il y avait un seul auteur dans Ésaïe 1 à 66. C'est juste dans le dernier siècle, il y a environ plus de 100 ans, qu'il y en a qui ont dit, c'est impossible qu'un homme sache. Et c'est vrai, impossible qu'un homme sache qui va arriver plus tard, à moins que Dieu lui révèle, à moins que Dieu lui annonce. Et Dieu nous annonce quelque chose dans Ésaïe 40. Et là, dans Ésaïe 40, il y a un changement de ton. Et si je vous le lis rapidement, j'ai mis tout mon espoir, je vais juste vous lire les quelques versets, j'ai mis tout mon espoir à l'Éternel, il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication, il m'a remonté du puits de destruction et du fond de la boue, il m'a mis debout sur les pieds. Et là, il chante un cantique, je continue à vous lire, Ésaïe 41, heureux celui qui se soucie du pauvre, s'il est dans le malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le protège et préserve sa vie, il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au pouvoir de ses ennemis, et ainsi de suite. Et il y a un autre qui dit, console, et je ne l'ai pas devant mes yeux, mais il y a un message de consolation de Ésaïe 40 jusqu'à au moins 55, ou même 56 jusqu'à la fin. Il y a un changement de ton. Quel est le sujet qu'on retrouve de Ésaïe 40 jusqu'à vers la fin? L'Éternel sauve. L'Éternel a une intention. Je veux vous délivrer. Oui, vous allez partir en déportation, mais je veux vous délivrer. Vous savez, un des prédicateurs de l'histoire qui ne vit plus aujourd'hui, que j'aime beaucoup, s'appelle Charles Spurgeon. Il a existé de 1834 à 1892 en Angleterre. Il a prêché beaucoup dans la ville de Londres. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? C'est correct. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Seigneur Jésus? C'est beaucoup plus important. Spurgeon s'est converti avec ce verset en Ésaïe 45 et verset 2. Tournez-vous donc vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui habitez les confins de la terre, les extrémités de la terre, car moi seul je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. J'ai lu souvent sa biographie parce que j'aime Spurgeon. Mais je me suis toujours posé la question, pourquoi il s'est converti avec un verset d'Ésaïe? N'est-ce pas? Il me semble qu'il y a des versets beaucoup plus faciles ou qui sont beaucoup plus, qui ont un appel au salut dans le Nouveau Testament. Jean 3, 16, Acte 4, 12, Romains 3, 23, Romains 6, 23, dans Corinthiens 15, hein, on les connaît. Comment il a fait tout ce qu'on... Puis ceux qui connaissent un petit peu Spurgeon, il s'est converti autour de l'âge de 16 ans de mémoire. Mais il était dans des grandes luttes dans son cœur. Il voulait même essayer de se décrire comme un athée. On était juste avant l'âge des Lumières, en entendant Spurgeon, ça commençait tranquillement. Puis Spurgeon... Il y avait de quoi dans son cœur qui l'amenait à ne pas vouloir croire, mais qui le dirigeait vers la vérité. Et ça, c'est Dieu qui agissait. Puis un jour, lors d'une tempête de neige, Spurgeon n'est pas capable de se rendre à son église usuelle. Il se rend à une église un petit peu plus proche, de peine et de misère. Le pasteur n'est pas capable d'être présent à cause de la grosse tempête de neige. On se rappelle, on est en charrette, hein? on n'est pas des charrues comme aujourd'hui. Et le pasteur n'est pas capable d'être présent, donc c'est un homme très simple, sans éducation apparemment, qui proclame le message ce dimanche-là. Et tout ce qu'il fait, c'est qu'il cite Ésaïe 45:2. Tournez-vous vers moi, tournez-vous. Il répète. À un moment donné, il voit Spurgeon assis en arrière, un visiteur qu'il ne connaissait pas. Puis il dit, toi, jeune homme, tu as de l'air bien triste dans ta vie. Mais moi, je te dis que tu vas rester triste toute ta vie, à moins que tu obéisses à mon commandement. Tournez-vous vers Dieu. Puis Spurgeon, tout d'un coup, il a compris que c'est en se tournant vers Dieu qui sera sauvé, vous qui habitez les confins de la terre, car moi seul, je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Les extrémités de la terre, dans ce temps-là, c'était où? Dieu vient de promettre à Israël, Dieu vient d'annoncer à Israël, vous allez partir en déportation jusqu'aux extrémités de la terre, en Ésaïe 31. Et là, Dieu leur dit, même quand vous allez être loin là-bas, loin de tout, dépossédé de tout, même de votre identité, tournez-vous donc vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui habitez les extrémités de la terre, car moi seul je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je vais avancer un petit peu plus rapidement. On est forcé, nous aussi, dans nos vies, de réaliser le gâchis humain. on regarde à Israël, on regarde les idoles, on regarde tout ce qu'ils ont fait, on regarde la déportation, mais on n'a pas besoin de regarder vraiment loin de nous pour comprendre des fois que c'est dans nos cœurs. On se déporte. Ou il y en a qui se connaissent, qu'on connaît, qui se déportent, qui vivent avec les luttes du péché, qui, à un moment donné, abandonnent. Mais Dieu leur dit la même chose. Tournez-vous, je veux vous racheter, je veux vous racheter. Les prophéties proclament la souveraineté de Dieu. Les prophéties rappellent l'alliance de Dieu, son intention d'habiter avec nous. Les prophéties confrontent la faillite humaine. Les prophéties annoncent une délivrance, la rédemption. Dans Ésaïe 42, là je vous ai parlé d'Ésaïe 39 beaucoup, le changement de ton en Ésaïe 40 où le sauveur est proclamé. En Ésaïe 42 à 53, on retrouve quatre chants qui sont souvent appelés les chants du serviteur. Là, on peut voir le Seigneur Jésus. Et là, ce que je vais vous amener à voir, c'est pas juste que les Juifs ont compris quand Ésaïe leur a parlé de la part de Dieu, mais c'est aussi ce que les apôtres, éventuellement, ont compris. Et on va regarder les deux ensemble. Dans le livre d'Ésaïe, Israël est fréquemment nommé comme un serviteur. À un moment donné, si vous lisez attentivement, vous allez voir que oui, ça parle d'Israël comme étant le serviteur de l'Éternel qui va être parti dans un pays éloigné. Mais il est question aussi d'un serviteur d'une façon plus spécifique, d'un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Parmi Israël, un prophète que Dieu a choisi pour être Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce serviteur-là est en distinction avec le serviteur qui est Israël. Et on peut le reconnaître très habilement dans le texte en comprenant que ce serviteur-là rachète les péchés de mon peuple. Il est évidemment question de quelqu'un de plus spécifique qu'Israël maintenant. Et on retrouve des indices comme ça. L'annonce du royaume est présente dans Ésaïe. Et on va terminer avec cela. Vous savez ce que veut dire le mot Hosanna? Qui se souvient ce que ça veut dire? On l'a chanté, je pense, le premier chant matin ou le deuxième. Hosanna, qu'est-ce que ça veut dire? Reviens. Ça, c'est Maranatha. Maranatha. Sauve-nous. Oui, Claude. Sauve-nous. Hosanna, fils de David, aie pitié de nous. Hosanna veut dire Dieu, sauve-nous. C'est une prière, c'est un cri. Sauve, sauve. Quand on chantait Hosanna tantôt, que le Seigneur restaure toutes choses, même celui dont la vie est brisée, dans ce chant qu'on a chanté. Hosanna, c'est sauve, sauve, Seigneur. Hosanna, sauve éternel, c'est ce qu'on retrouve de Ésaïe 40 jusqu'à la fin. Et j'aimerais vous lire quelques versets. Ésaïe 43, verset 3. Dieu qui dit, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Et vous allez le retrouver plus que trois fois. La notion de sauveur, rédempteur, vous allez le retrouver plus que trois fois à partir du chapitre 40. Mais au moins, ces trois-là. Ésaïe 43, verset 11. Moi, je suis l'Éternel, et en dehors de moi, il n'a pas de sauveur. Ésaïe 43, verset 14. Voici ce que déclare l'Éternel, votre libérateur, moi, le Saint d'Israël. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux de reconnaître l'intention de Dieu, même dans son acte de déporter Israël? 100 ans avant, 101 siècles avant que la déportation ait lieu, Dieu dit à Israël, vous avez failli à mon alliance et dans l'alliance que j'ai avec vous, je vais vous déporter. C'est ce que je vous ai promis. Mais rappelez-vous une chose, n'est-ce pas merveilleux de voir que même dans ce contexte-là, Dieu dit, je veux vous sauver. Je suis votre rédempteur. Tournez-vous vers moi, même là-bas aux extrémités de la terre, et je suis votre rédempteur. Mais plus que ça, Dieu promet aux Juifs la personne qui va être vraiment capable de les sauver, parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a point de salut. Et Jésus est venu sur la terre comme Dieu pour nous sauver, pour nous racheter. Et on le retrouve même dans Ésaïe. Vous vous souvenez d'Ésaïe 40, verset 3. Je vous ai parlé d'un changement de ton tantôt. Tout de suite, au début, Ésaïe 40. Un petit problème, mais on va le régler autrement. Ésaïe 40 et verset 3, écoutez-moi, je vais vous lire. On entend une voix qui crie dans le désert. Ésaïe 40 et verset 3. Dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelé dans le steppe. Une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, toute montagne rabaissée, ainsi que toutes les collines, les lieux accidentés se changeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées. Les disciples ont compris qu'il s'agissait de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Mais même à ce moment-là, les orgueilleux vont être baissés, Ceux qui sont dans la difficulté, les vallées vont être comblées. Le peuple était dans un désastre moral. Et Dieu est en train de dire, je vais aplanir, je vais préparer vos cœurs. Il y a quelqu'un que j'ai prévu qui va venir pour préparer la venue du roi qui, lui, va régler complètement le problème du péché. Le ministère du Seigneur Jésus, et on l'a ici en Acte 42, Ésaïe, j'étudie Acte aussi dans le démêlé, mais dans Ésaïe 42, on voit le Seigneur Jésus qui est déjà présent. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit. Et il établira la justice pour les nations, mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie, et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Mettez-vous encore dans les souliers d'Israël, brisés, déportés, restaurés. Probablement que certains d'entre eux sont partis avec les écrits, qui était très rare, et c'est là que les synagogues sont nées en déportation, parce qu'un seul écrit servait à plusieurs personnes. Mais ils étaient dans terre éloignée, à un moment donné, probablement en train de lire cela. Le Sauveur qui s'en vient ne brisera pas le roseau qui se ploie, on est déjà brisé. Il n'éteindra pas la flamme qui brûle. Oui, on le prend pour nous des fois, pour le Seigneur dans ma faiblesse, et on fait bien de le faire. Seigneur, dans ma faiblesse, je suis un roseau presque brisé, je suis une flamme qui est sur le point de s'éteindre, mais je sais que toi, mon Rédempteur, tu ne l'éteindras pas complètement, tu es là pour me ramener la vie. Mais Israël le prenait aussi pour lui en déportation. Jésus le prit. Jésus a d'une façon très claire dans les évangiles, a démontré que cette prophétie-là est accomplie maintenant. Ésaïe 61, Jésus qui lui-même dit en Galilée, dans une des synagogues, « L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, il prend Ésaïe, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. » Ésaïe parle déjà de la bonne nouvelle. « Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel, l'année de grâce. » Et un jour de rétribution. Et on voit que le Seigneur Jésus ne cite plus à partir de cette partie-là. La partie où on voit la rétribution, le jugement, la restauration finale, Jésus arrête de citer Ésaïe à ce moment-là. Parce qu'une prophétie s'accomplit en plusieurs siècles, en plusieurs années. Et la deuxième partie de la prophétie, on sait que ça va être accompli plus tard. Les souffrances du Seigneur Jésus en Ésaïe 53, vous connaissez tous Ésaïe 53, les souffrances du Seigneur Jésus, méprisé, abandonné des hommes, les disciples ont compris que le Messie devait souffrir pour nous délivrer de nos péchés. Au départ, ils ne comprenaient pas. En se mettant dans leurs souliers, ils ont lu Ésaïe plusieurs fois, ils ont compris qu'est-ce qui est arrivé comme désastre en étant déportés à Babylone. Maintenant, ils savent que leurs ancêtres sont revenus à Jérusalem. Au lieu d'adorer le Dieu du Temple, ils adorent le Temple. C'est ce qu'Étienne leur démontre, à Acte 7. Ils ont quand même quitté l'Éternel, même avec le Temple et l'office que Dieu leur a donné pour l'adorer. Non? Un désastre, les disciples le savaient. Les Romains règnent sur eux. C'est plus les Babyloniens, maintenant c'est les Romains. Et là, les Juifs espèrent un Sauveur qui va les délivrer de leurs ennemis. Jésus arrive, il meurt. Les disciples disent, on n'aurait pas dû croire en lui, hein? On s'est fait avoir, on s'est fait tromper. Et Jésus dit, non, je suis ressuscité. Et c'est ce qui devait arriver. Regardez Ésaïe 53. Qu'est-ce que l'Éthiopien a lu en Acte 8? Ésaïe 53, et les disciples étaient pleinement convaincus et habilités à convaincre cet eunuque. Vous savez que les eunuques étaient supposés être chassés de la maison de Dieu? Mais c'est spécial de voir comment en Acte 8, l'eunuque se rappelle des souffrances du Messie promis pour que lui aussi soit délivré et que lui aussi ait sa place avec Dieu dans la gloire de Dieu, même dans le temple. Parce que le temple, nous sommes maintenant le temple de Dieu. Ésaïe 53, les disciples ont compris la notion que le Messie devait mourir. Ésaïe 32. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu en haut. L'annonce de l'Esprit qu'on retrouve dans Acte 1, 8, est promise même dans Ésaïe. Dieu dit, je vais déployer sur vous mon esprit et vous allez être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, incluant les... Qu'est-ce que les Juifs ont compris? Babylone. On va être déportés là, on est des témoins de Dieu même à Babylone. Qu'est-ce que les disciples maintenant ont compris? L'accomplissement de la prophétie avec le règne de Dieu qui arrive en Acte 1, verset 8, qu'est-ce que les disciples ont compris? Le Messie est venu, il nous a vraiment délivrés de nos péchés, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité démontrant sa victoire sur le péché, il est apparu pour nous certifier qu'il a vraiment vaincu, et maintenant il nous donne la promesse du Saint-Esprit qu'on retrouve aussi en Ésaïe 32, qu'on retrouve en Ésaïe 44, si je ne me trompe pas. La promesse du Saint-Esprit, et maintenant il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On le voit dans Ésaïe, déjà, Dieu l'a promis. Et maintenant, on voit aussi la notion de créer, transformé par Dieu en Ésaïe 42. Je vais passer vite là-dessus. Dieu dit, je vais vous refaçonner. Je vais faire de vous une nouvelle créature. On voit dans le Nouveau Testament, Ésaïe 43, dans le verset 40, dans le chapitre 42, on voit que vous êtes des sots, des lépreux, des boiteux, et tout d'un coup, après avoir décrit Israël comme des sots, maintenant l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné Israël te déclare ceci. Ne sois pas délivré, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Dieu qui dit, je t'ai façonné, je t'ai créé, je t'ai appelé, tu es à moi, tu es mon chef-d'œuvre. Et finalement, je fais mes témoins à Ésaïe 43, verset 10. Dieu qui dit, mes témoins, c'est vous. Plus loin, Ésaïe 49, car je t'ai adoré pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne. Et Dieu avait un plan même d'atteindre Babylone. Vous savez que Daniel a influencé des mages à Babylone. Ils sont revenus pour adorer le Seigneur Jésus quand il est né. C'est le fil de l'histoire. Dieu a un fil conducteur dans son histoire. Vous savez, c'est quoi? Il a tout créé parfait. Le péché est entré dans le monde, il a tout détruit. Dieu a une intention. Je veux habiter parmi ma créature. Je veux être avec eux. Je veux qu'ils soient les miens. Et Dieu donne une alliance à Israël. Dieu se forme un peuple. Il y a toujours cette lutte de la part d'Israël à s'attacher à Dieu, à suivre Dieu, le désordre, le gâchis. Même dans la vie de David, il y a un gâchis. Souvent, on regarde David et on l'héroïse. On dit, ah, David, le roi selon le cœur de Dieu. Et oui, c'est vrai. Mais regardez le gâchis, même dans sa propre famille. Absalom, Amon, vous souvenez, Bathsheba, un désastre causé par le péché de David. Il fait tuer Uri. Et on voit la lutte parmi le peuple d'Israël, la lutte parmi les rois, il y a des hauts et des bas. Quand le salut vient de nous, et il ne vient pas de nous, mais quand on essaie par nos propres vies, par nos propres forces, qu'est-ce qu'on voit? Le gâchis. Un haut, un bas. L'avoir des hauts et des bas, continuez par vous-même. Ça ne serait pas un message vraiment intéressant. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus, vous allez avoir juste des hauts. Parce que le Seigneur Jésus délivre. Et là, même dans cette lutte qu'on voit entre Israël et Dieu constamment, Dieu finalement dit, dans mon alliance, je dois vous envoyer 70 ans à Babylone. Mais Dieu se démontre comme un sauveur à partir d'Ésaïe 40, puis il dit, même là-bas aux extrémités de la terre, tournez-vous vers moi, je veux vous créer nouveau, vous êtes les miens, et je serai votre Dieu. Et rappelez-vous une chose, je vous promets un sauveur qui lui va vous délivrer complètement, qui délivrera son peuple de ses péchés. Et maintenant aussi, quand vous allez être là-bas, je vais déployer même mon esprit sur vous, vous serez mes témoins. Et là, on voit les disciples maintenant. Le Seigneur Jésus est mort et ressuscité. Ils leur apparaissent pendant 40 jours. Et on voit les disciples tout d'un coup qui... Ah! Je comprends. Jésus est venu pas juste pour être un politicien, un homme d'État, un commandant militaire, un général, pour nous délivrer des Romains. Jésus est venu pour nous délivrer de ce qui nous a amenés sous l'asservissement des Romains, le péché. C'est à cause du péché que les Juifs ont vécu toutes ces choses-là. Jésus est venu pour nous délivrer de nos péchés. Et c'est ce qu'on voit, Matthieu, l'évangile de Matthieu, l'évangéliste Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est le point qu'il essaye de faire. Jésus est venu, oui, il est mort, mais c'était prophétisé qu'il est mort parce que c'était prévu par Dieu. C'est pas un accident, c'est pas « Ah non ». Il est venu parce que c'était prévu par Dieu qu'il est mort pour nous sauver de nos péchés. Et là, il est ressuscité. Et là, tout d'un coup, toutes les prophéties de l'Ancien Testament pour les apôtres prennent du sens. Ils disent, c'est en train de s'accomplir. Maintenant, imaginez-vous leur excitation. C'est en train de s'accomplir. Dieu est venu parmi nous. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Jésus règne. Et maintenant, Dieu nous a envoyé son esprit pour qu'on soit ses témoins et qu'on proclame avec conviction, avec force, cette bonne nouvelle maintenant jusqu'aux extrémités de la terre. Les prophéties, rappelez-vous de ceci, les prophéties proclament la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas une prédiction. C'est Dieu qui annonce ce qu'il a prévu parce qu'il est souverain. Les prophéties rappellent l'alliance de Dieu. Les prophéties confrontent la rébellion humaine, le péché en nous. Les prophéties annoncent la délivrance que Dieu a promise. Juste un petit clin d'œil très rapidement, comment vous pouvez lire les prophéties avec ce que je sais que c'était beaucoup dans un court laps de temps. Prenez vos Bibles personnellement, demandez au Saint-Esprit de remplir vos cœurs, vos pensées. Prenez vos Bibles avec curiosité, avec intérêt, avec un cœur ouvert. Lisez 2 Chroniques 26 à la fin de 2 Chroniques. Lisez Ésaïe tranquillement. Lisez les prophéties de cette façon-ci. Essayez de reconnaître les événements, le contexte qui est en train de se passer pendant ce moment. Essayez d'établir le lien entre l'intention de l'auteur, Ésaïe, et les événements ayant cours. Et les choses sont en train de se produire. Il y a des personnes qui entendent le message. Mettez-vous dans leur souliers. Troisième chose, gardez à l'esprit le plan rédempteur de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'Ésaïe soit écrit, que le livre d'Ésaïe soit écrit. Quel est le message que Dieu veut donner à Israël? Quel est le message que Dieu veut même me donner à moi aujourd'hui? Et on peut, en quatrième lieu, lire l'Ancien Testament, la lumière du Nouveau Testament, et essayer de comprendre comment les apôtres, en se mettant dans les souliers des apôtres, ont compris les prophéties d'Ésaïe. Et il faut lire aussi le Nouveau Testament sur la fondation de l'Ancien, donc les deux quoi. Lire l'Ancien à la lumière du Nouveau, puis lire après ça le Nouveau Testament sur la fondation de l'Ancien Testament. Il y en a qui peuvent peut-être penser, puis j'aimerais ça peut-être juste adresser rapidement en conclusion cette question-là. Pourquoi Dieu n'a pas été plus clair à telle date, tu sais, comme Nostradamus, ou comme d'autres hommes faisaient, à telle date, telle chose? Pourquoi c'est ça? On lit les prophéties, puis c'est comme compliqué à comprendre. Pourquoi tu n'as pas dit, dans notre calendrier, nous autres, le 24 août 2014, il va arriver telle chose? Je vais revenir des cieux à telle journée. Pourquoi il y a des choses qui sont gardées secrètes quand même le Seigneur Jésus, dans son caractère d'homme, dans sa nature humaine, ne pouvait pas comprendre, ne savait pas. Et Dieu, il le savait, étant Dieu, il le savait, mais l'heure, la date, le moment exact, il ne savait pas. Pourquoi que Dieu n'a pas tout révélé d'une façon spécifique? C'est certainement plus simple, n'est-ce pas? J'aimerais suggérer la réponse qui peut être très complète. Dieu a caché des choses aux sages et aux intelligents. La réponse pourrait être très complexe. Je vais la simplifier en trois choses. Je pense que Dieu connaît tous notre inclinaison vers l'arrogance. Je pense que plus on en sait, plus on se sent supérieur. On sait quelque chose qu'on n'a même pas établi, mais parce qu'on le sait, on se sent important. N'est-ce pas? Imaginez-vous l'arrogance qu'on aurait si on savait tout dans les détails, puis qu'on s'ostinait là-dessus. Déjà, on a cette tendance-là, juste avec le peu que Dieu nous a révélé. Je pense que Dieu veut nous garder dans l'humilité. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir avec exactitude. Dieu nous révèle son intention. Dieu nous révèle sa bonne nouvelle. Dieu nous révèle des promesses. Mais même les apôtres disent, c'est quand ça va venir? C'est pas important de savoir quand. Tu sais, mais tu sais, moi, vivons dans l'humilité, pas dans l'arrogance. Dieu connaissait notre arrogance. La deuxième chose, c'est que Dieu veut une réponse sincère. Si je vous disais, à soir à 6h03, 32 secondes, ça va être ton dernier souffle. Notre réponse, est-ce qu'elle serait aussi sincère que si Dieu disait, je t'aime, j'ai une intention, j'ai un plan pour toi, j'ai une décision à prendre. On a une certaine liberté qu'on a pour prendre cette décision-là. Si on savait qu'à 21 ans et 2 mois, j'allais me convertir, qu'est-ce que je vais faire tout le temps avant? Que je vais chercher Dieu. Dieu veut une sincérité dans notre cœur. Dieu veut qu'on le cherche avec sincérité. Il ne veut pas mécaniquement générer en nous des décisions. Il veut qu'on les prenne avec sincérité. C'est une deuxième partie de la réponse. Troisième partie de la réponse, je pense que celle-là est importante. Dieu ne veut pas qu'on vive dans le futur. Dieu veut qu'on vive dans le présent, avec l'espérance du futur. Et c'est bien différent que d'essayer de vivre dans le futur. Ah, il va se passer telle chose dans le ciel, ça va être telle façon, essayer de comprendre. Puis, pendant ce temps-là, on oublie de vivre le présent, on oublie d'être des témoins, on oublie de vivre dans l'espérance du futur, on oublie de vivre les yeux fixés sur Jésus. Dieu veut qu'on vive dans l'espérance, dans le moment présent. Pour terminer, j'aimerais ça lire ce verset-là, parce que peut-être dans nos vies, nous aussi, on vit des moments où on est comme dans une sorte de déportation, une sorte d'écart. ou dans une des épreuves qu'on comprend pas. On a besoin d'une délivrance. Mais même dans Ésaïe, Jésus cite Ésaïe en Matthieu 12, et même dans Ésaïe, on peut trouver cette promesse-là qui est complètement accomplie en Jésus. Et même nous, aujourd'hui, on peut se tourner vers Jésus pour retrouver cette promesse-là. Ainsi devait s'accomplir cette parole du prophète Ésaïe. Voici mon serviteur du Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne cherchera pas querelle, il ne lèvera pas le ton, on n'entendra pas sa voix dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se croit, il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore, il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. Seigneur Dieu, merci pour ton plan merveilleux. Merci parce que tu ne veux pas nous laisser ignorants de ton plan, Seigneur. On vit tous des troubles, des difficultés comme les Israélites. On vit des luttes tout comme eux les ont vécues. Et Seigneur, à eux tu as prévu un plan merveilleux. À eux tu leur as fait la promesse du salut, la promesse d'un libérateur, la promesse d'un plan de rédemption. Et Seigneur, cette promesse n'est pas juste pour les Israélites de ce moment-là, et jusqu'à nous aujourd'hui. Et Seigneur, donne-nous aujourd'hui de vivre dans cette promesse, de regarder à Jésus qui est déjà venu. Les Juifs l'anticipaient. Nous, on sait qu'il est venu. Mais on sait pourquoi qu'il est venu. Et Seigneur, donne-nous de fixer nos yeux vers le Seigneur Jésus, celui que tu as promis, celui qui est venu, celui qui s'est écrié, tout est accompli. Et qu'on puisse trouver en lui rédemption, réconciliation, restauration, une parfaite délivrance. Merci pour le Seigneur Jésus. Amen.